15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous répondons à vos interrogations. Nous tentons aussi de prendre soin de vous. Et pour cela, il est à mes côtés tous les jours dans le studio, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la sclérose en plaques. Environ 110 000 patients sont touchés en France, une pathologie mal connue du grand public, mais contre laquelle, pour de nombreux malades aujourd'hui, il existe des solutions thérapeutiques, nous en parlerons. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que même dans les formes les plus graves, il y a de l'espoir aussi, des essais cliniques sont en cours, avec d'ici 2-3 ans peut-être de nouvelles perspectives. Pour nous expliquer tout ça, notre invité, ce sera le professeur Catherine Lubetzky. Elle dirige le département de neurologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va s'intéresser au strabisme, ce défaut de parallélisme entre les deux yeux qui les empêche de regarder dans la même direction. Tous les strabismes n'ont pas la même intensité, mais la plupart se traitent bien, nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle répondra à une femme qui s'interroge sur les douleurs qu'elle ressent parfois lors des rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous reprenons nos bonnes habitudes avec le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Élodie.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une petite varice sur mon mollet. Mon médecin m'a parlé de la sclérothérapie à la mousse pour traiter ça chez un phlébologue. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus de quoi il s'agit précisément? Merci, bonne journée.
Alors, pour répondre à votre question sur cette technique, effectivement, pour traiter les varices, la sclérothérapie à la mousse, nous avons demandé des précisions à un spécialiste, l'angiologue Ariel Toledano. On l'écoute.
C'est un acte que l'on réalise dans un cabinet médical, donc il n'y a pas besoin d'anesthésie. Le principe est d'injecter un produit dans une veine pour que cette veine se rétracte et donc traiter cette varice qui est dilatée par cette rétractation de la paroi veineuse à travers cette injection de produit. De plus en plus, on utilise donc des produits qu'on a émulsionnés, c'est-à-dire des liquides qui sont devenus des mousses. C'est ce qu'on appelle donc la sclérothérapie à la mousse. Et donc, cette mousse aurait la vertu d'être plus adhérente au niveau des parois et favoriserait une rétraction plus importante. Donc, certains phlébologues ont tendance à pratiquer cette technique. Il faut être très clair, la sclérothérapie est une technique qui est indolore, ça ne fait pas mal, c'est une technique très rapide qui impose juste une contrainte, c'est-à-dire porter un bas de contention ou une bande de contention après l'acte, éviter évidemment tout effort physique pendant au moins 24-48 heures, éviter de prendre l'avion pendant 2-3 jours après l'acte. Ça nécessite quand même un contrôle échographique ou un contrôle pour vérifier si la veine s'est bien rétractée ou s'il faudra refaire une séance pour améliorer le résultat.
Voilà donc les précisions du docteur Ariel Toledano qui était au micro de Benjamin Lévesque. Passons à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous, Jimmy. C'est celle d'Annie qui a 38 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Voilà, je voudrais vous poser une question. J'ai mon petit-fils qui fait ses dents en ce moment. C'est dur pour lui, il pleure énormément, le pauvre. Les parents, n'en parlons pas, ils dorment presque pas, bien sûr. J'ai entendu dire, mais je ne me souviens plus si c'est vraiment vrai, qu'on peut frotter du sucre sur la gencive pour que la dent perce et que l'enfant soit soulagé. C'est ce qu'on faisait il y a quelques années, moi-même, disons, pour mon fils, il me semble. Merci à vous.
Bon Annie, vous m'excuserez, je vous ai rajeuni de 30 ans puisque vous avez 68 ans, effectivement. Donc la question d'Annie Jimmy, un bébé qui a une poussée dentaire, c'est vrai que bon, il circule pas mal d'idées reçues, il y a des recettes de grand-mère. Le sucre frotté sur la gencive, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Non, trois fois non, pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que les bébés sont très sensibles au sucre, ils ont des papilles gustatives beaucoup plus développées que les nôtres et donc le sucre, c'est un peu une explosion en bouche, un peu comme une drogue. Et à ce moment-là, on peut permettre chez les tout petits de faire des soins en leur donnant un peu de sucre, ça les anesthésie. Donc vous allez les calmer, mais de façon artificielle, vous n'allez pas aider à percer la dent. Et pire encore, vous allez les habituer au sucre et entraîner un risque de carie. Donc c'est absolument pas une méthode recommandée. Il y en a d'autres. Mais encore une fois, il n'y a aucun traitement spécifique, mais vraiment le sucre, surtout pas.
Bon, on ne frotte pas le sucre sur la gencive. Alors, juste pour ceux qui auraient oublié ou qui veulent oublier, les poussées dentaires, c'est entre quel âge déjà?
Alors, les dents apparaissent en général, les premières dents, vers 6 mois, avec une grande variabilité en fonction des bébés.
Il y a même des bébés qui naissent avec.
Exactement, ouais. Qui naissent avec une ou deux dents. Ça commence par les incisives du bas, par deux, puis celles du haut. Et puis, on a les premières molaires et les canines, et puis les deuxièmes molaires. Et donc, on a de 6 mois à 2 ans, une vingtaine de dents de lait qui vont percer et qui peuvent être responsables de ces poussées dentaires. dont on aimerait bien s'en passer.
C'est clair, vous êtes dedans, vous, je crois, en ce moment, en plus. Hein. Alors justement, Jimmy, comment vous soulagez votre petit bébé, là, en ce moment?
Alors déjà, il faut essayer de reconnaître la poussée dentaire. Les enfants, ils sont grognons, ils sont un peu douloureux. Les pommettes rouges, ils salivent, ça bave beaucoup. Mmh. Ils sont un peu inconfortables. Mais attention, souvent, je vois en consultation des parents qui me disent « Écoutez, ça fait 3 jours qu'il a de la fièvre à 39-40. On pensait que c'était les dents. La fièvre peut être légère à modérée, mais pas une fièvre. »
Il n'y a pas 40 pour
exactement,
des dents.
Donc,
ouais.
Il faut consulter. Donner du paracétamol s'il a mal. Surtout pas de collier d'ambre.
Ah mince, les petits colliers j'ai fait
qu'on
ça, moi, à l'époque.
Non, il y a risque d'étouffement. Des Oula. Cas sont survenus notamment en Espagne.
Ne faites pas comme
vous
moi.
Vous pouvez donner des anneaux de dentition qu'on peut mettre au frais, surtout pas au congélateur, puisque vous risquez de brûler la gencive des bébés.
Oui, puis ça ne va pas coller, ça, un peu aux dents si
ça
c'est congelé.
Ça colle pas, mais ouais. ça peut vraiment véritablement brûler. Donc, il suffit souvent d'attendre que ça passe. L'homéopathie, pourquoi pas, ça n'a jamais fait preuve de son efficacité pour les bébés, mais aussi pour les adultes. Mais peut-être que l'action empathique de donner quelque chose aura un impact. Mais souvent, il faut prendre son mal en patience et attendre que ça passe. Et certains bébés vont souffrir beaucoup plus que d'autres. Et puis, s'il y a un doute, vous consultez parce que le bébé peut avoir une otite quand il a mal. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter.
Il y a le bisou magique qui marche bien aussi.
Aussi bien que l'homéopathie.
Très bien, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Si vous aussi, comme Annie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. Ce sera le professeur Catherine Lubetzky, qui est neurologue, avec qui nous allons faire un point complet aujourd'hui sur la sclérose en plaques, une maladie peu connue, qui effraie même un peu d'ailleurs, mais qui touche 110 000 personnes en France. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Catherine Lubetzky. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le département de neurologie de la Pitié-Salpêtrière à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et vous dirigez aussi une équipe de recherche à l'Institut du cerveau, l'ICM. Alors, avec vous aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est la sclérose en plaques. D'abord, cette pathologie, ça concerne combien de personnes en France ?
En France, on estime qu'il y a environ 110 000 patients atteints de sclérose en plaques et qu'il y a tous les ans entre 4 et 5 000 nouveaux cas de sclérose en plaques.
Plutôt des hommes, des femmes, je crois qu'il y a une différence.
Alors, plutôt des femmes. En tout cas, dans la forme, on en parlera peut-être après, dans la forme la plus fréquente, qui est la forme qui évolue par poussée, il y a 3 femmes atteintes pour un homme.
Ah oui.
Donc, une grosse prédominance féminine. Et je vais peut-être continuer aussi, une prédominance féminine et aussi une maladie qui touche les jeunes. Donc, les jeunes et les femmes. Puisque dans la grande majorité des cas, cette maladie qui évolue avec des poussées, justement, elle démarre autour de la trentaine, entre 28 et 30 ans en moyenne.
Docteur Jimmy Mohamed.
Tout le monde a déjà entendu le mot sclérose en plaques une fois dans sa vie, mais très peu connaissent vraiment le fonctionnement, le mécanisme. C'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, je vais essayer de vous l'expliquer de façon assez simple. J'ai d'abord parlé des lésions qu'il y a dans le système nerveux central. Ça touche que le système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière et le cerveau. Et donc, dans la moelle épinière et le cerveau, il y a des lésions dans lesquelles, c'est ça qu'on appelle les plaques, et ces lésions, au sein de ces lésions, il y a une atteinte de la myéline. Alors, qu'est-ce que c'est que la myéline ? C'est une enveloppe qui va s'enrouler autour des axones. Vous savez, les axones, c'est les prolongements du neurone, et qui va permettre la transmission, l'accélération en tout cas de la transmission de l'influx nerveux. Donc, les lésions de sclérose en plaques donc, sont disséminées dans le cerveau et dans la moelle épinière. Donc ça, c'est les lésions. La deuxième chose, c'est à quoi elles sont dues, ces lésions ? La réponse simple, c'est la cause de la maladie, on ne la connaît pas, mais on sait assez bien ce qui se passe hein, quand même. Donc, il y a un épisode initial qui est probablement favorisé par peut-être une susceptibilité génétique à la maladie, peut-être par une infection virale préalable, peut-être par des facteurs environnementaux. Et tout ça, ça va concourir à faire ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire l'organisme, le système immunitaire de l'organisme se trompe un peu et va reconnaître comme étranger des molécules, des antigènes qui, normalement, ils devraient reconnaître comme faisant partie de l'individu, faisant partie du soi. Donc, c'est une maladie auto-immune.
C'est l'organisme qui se défend contre lui-même,
c'est
en fait.
L'organisme c'est l'organisme qui se retourne contre lui-même, on va dire, absolument. Et donc, les composantes de la réponse immunitaire, donc les anticorps, les cellules qu'on appelle les lymphocytes, vont détruire cette myéline qui entoure les axones.
Et donc, qui sont le prolongement des neurones.
Qui sont le prolongement des neurones, absolument.
Donc c'est une maladie neurodégénérative, mais ça n'a rien à voir avec Alzheimer, par contre.
Pas du tout, ça n'a rien à voir avec Alzheimer, puisque c'est une maladie donc, d'abord inflammatoire, ensuite démyélinisante, puisqu'elle va dégrader cette gaine de myéline. Et la troisième composante, c'est la composante neurodégénérative, puisque l'axone qui va se retrouver nu, hein, sans cette gaine de myéline qui, outre la propagation de l'influx nerveux, donne une protection à l'axone, eh bien l'axone va souffrir, il va s'abîmer et c'est ça qui fait toute la gravité de la maladie.
Je crois que c'était clair, hein, Jimmy. Franchement,
très
ça a l'air compliqué, mais vous l'avez très bien expliqué.
Exactement.
Franchement, je suis sûr que nos auditeurs ont tout compris. Jimmy.
On dit la sclérose en plaques, mais en fait, il y a deux formes, une forme rémittente et une forme progressive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Donc, dans la grande majorité des cas, dans 75% à peu près des cas, la maladie va évoluer sous forme de poussée. C'est ce qu'on appelle la forme rémittente. Donc, il y a des poussées, c'est-à-dire des symptômes qui vont apparaître. On parlera des symptômes après, mais ces symptômes vont apparaître, ils vont durer 3-4 semaines.
Et puis, ça disparaît.
Tout va rentrer dans l'ordre, complètement, ou en laissant une toute petite gêne séquelaire, etc. Et puis, il y aura 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, une deuxième poussée, etc. C'est ce qu'on appelle la forme rémittente, donc la plus fréquente au début de la maladie. La deuxième forme de maladie, c'est celle qu'on appelle la forme progressive d'emblée. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de poussée, mais il va y avoir installation de handicap, qui est souvent un trouble de la marche, qui va s'aggraver progressivement sans pousser.
Il n'y a pas de pause, là.
Là, il n'y a pas de pause. Mmh. Voilà, ce qu'il y a comme différence, la pente d'évolution peut être très variable, elle peut être très lente ou plus rapide, mais il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de rémission. Donc, une forme rémittante, une forme progressive, et puis finalement, il y a la forme intermédiaire entre les deux, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre, un pourcentage notable d'ailleurs, de formes rémittantes qui, après 15-20 ans d'évolution, les patients vont plus avoir de poussée, mais ils vont avoir, dans un deuxième temps, une aggravation progressive de leur handicap. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme secondairement progressive.
Et tous les gens qui ont une rémittante, vous avez dit, c'est quand même au début de la maladie la plus fréquente, la forme non pas poussée, qu'il y a des pauses, c'est pas forcément au jour le jour, tous les jours. Ils vont pas tous évoluer vers une progressive.
Non,
il y a des gens qui vivent à peu près des années tranquilles quand même.
D'abord, il y a une très très grande variabilité dans la sévérité de la maladie. Il y a des formes graves, il y a des formes au contraire tout à fait bénignes, et puis il y a des formes qui sont entre les deux. Et puis, en ce qui concerne la phase rémittante de la maladie, il y a des patients qui vont garder toute leur vie une forme rémittante. Et d'ailleurs, après un certain nombre de décades, les poussées disparaissent complètement. Et puis, il y a d'autres patients. En gros, on dit que c'est à peu près 50% des patients après une vingtaine d'années d'évolution de la maladie qui vont entrer dans la phase secondairement progressive. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, parce que je vous vois lever le doigt, mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est des notions qu'on connaît depuis 10, 15 ans ou quelque chose comme ça. Depuis, on en parlera tout à l'heure, il y a des traitements. Mmh. Et même si on n'a pas encore de certitude, les traitements qu'on a et qu'on commence à donner tôt dans l'évolution de la maladie font probablement reculer le début de cette phase secondairement progressive.
On en parlera après, effectivement. On ne fait que commencer cet entretien, professeur Loubetsky. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous en dire plus sur la sclérose en plaques, une maladie effrayante dans l'imaginaire de certains et pour cause. Hein, c'est tout de même la deuxième cause de handicap chez l'adulte jeune. Mais vous allez voir aussi que de nombreux malades, grâce au traitement, arrivent à mener une vie quasi normale. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, et notre invité, c'est vous, professeur Catherine Loubetsky. Vous êtes neurologue et dirigez une équipe de recherche à l'Institut du Cerveau, l'ICM. Vous êtes aussi professeur de neurologie à la Sorbonne Université. Alors, juste avant, nous avons commencé à évoquer un petit peu les causes de l'apparition de la sclérose en plaques. On a parlé un petit peu de la génétique qui joue un peu. Vous avez évoqué aussi le facteur, on va dire, exposition virologique dans l'enfance. Ça veut dire quoi ? On a attrapé, je ne sais pas, la rougeole petit, on a plus de risques d'avoir la sclérose en plaques. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?
Ça fait 20 ans au moins qu'on essaye de chercher le virus de la sclérose en plaques et on ne l'a pas trouvé. Donc probablement, il n'y a pas un virus qui directement est responsable de la maladie. Mais ce qu'on pense, c'est que le moment où le système immunitaire se dérègle un petit peu, peut-être que c'est secondaire à une infection virale. On pense contracter peut-être dans l'adolescence, mais le consensus actuellement, c'est de penser qu'il n'y a pas un seul virus, mais que c'est peut-être un organisme qui est un peu fragile à cause d'une susceptibilité génétique, qui à un moment donné, dans les suites d'une infection virale, va se tromper. De façon un petit peu schématique, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que l'individu, l'enfant, l'adolescent, là, est en contact avec un virus, donc son système immunitaire va se défendre contre ce virus, et il se trouve qu'il y a une partie de l'enveloppe de ce virus qui ressemble à une partie d'une des protéines de la myéline.
Ah,
et donc, du coup, il va apprendre à se défendre contre ce virus, et donc, comme il y a une protéine de la myéline qui est proche, eh bien, il va, dans un deuxième temps, développer une maladie auto-immune contre cette gaine de myéline.
Docteur Jimmy Mohamed.
Les gens savent que sclérose en plaques égale maladie neurologique, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes qui peuvent faire évoquer ce diagnostic ?
Les symptômes sont extrêmement variables, puisqu'ils dépendent. Je vous ai parlé des plaques tout à l'heure dans le système nerveux central, donc dans la moelle et dans le cerveau. Et donc, en fonction de la localisation de ces lésions, les symptômes vont être différents. Ils vont dépendre de la localisation de ces lésions. Si les lésions, elles sont dans le nerf optique, par exemple, eh bien, il va y avoir une baisse de la vue, un flou visuel, éventuellement une douleur associée. Donc ça, c'est un des symptômes. Si la lésion de démyélinisation, elle est dans la moelle, dans la partie postérieure de la moelle, là où il y a les fibres de la sensibilité, ça va donner des troubles de la sensibilité dans les membres. Un
jambes,
engourdissement,
ouais.
Des fourmillements, des douleurs. Si c'est plutôt dans la partie antérieure de la moelle, ou même plus haut d'ailleurs dans le cerveau, ça va donner des troubles de la motricité, donc une
des
jambe qui marche moins bien,
ouais.
Des difficultés
c'est
de marche.
Le diagnostic est difficile à poser parfois, qui peut avoir une errance.
Eh bien, je ne suis pas sûre que je suis d'accord, docteur
tu
Mohamed.
Tu lui as dit la même chose en préparant l'émission, elle m'a dit non, les généralistes la détectent très bien
oui,
aujourd'hui.
Oui, dans l'ensemble, ce sont quand même des symptômes qui vont apparaître en quelques jours, donc pas brutalement, donc on sait que ce n'est pas vasculaire, ce n'est pas un accident vasculaire. Ils apparaissent en quelques jours, c'est chez un adulte jeune, et ça déjà, c'est un élément d'orientation diagnostique. Et donc, quand on voit quelqu'un qui a eu déjà un épisode ou déjà plusieurs épisodes qui touchent des endroits différents du système nerveux, eh bien, je dirais que dans la majorité des cas, le diagnostic n'est pas si difficile.
Je fais un tout petit retour en arrière sur les facteurs de risque. Il y a eu des polémiques autour de certains vaccins qui pourraient peut-être entraîner des scléroses en plaques. On en est où là-dessus ?
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme polémique ? Des polémiques qui ont été quand même essentiellement franco-françaises,
en plus.
Dire. Et nos voisins, ils nous regardaient peut-être un peu en rigolant. Actuellement, ce qu'on peut dire, et je crois que c'est vraiment important de le dire de façon très ferme, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun élément d'épidémiologie qui permette de démontrer qu'un vaccin peut entraîner la sclérose en plaques ou qu'un vaccin peut, chez un patient atteint de sclérose en plaques, déclencher une poussée de la maladie. La grande polémique qu'il y a eu, bien sûr, c'est autour de l'hépatite B, ce qui fait qu'il y a des générations de jeunes enfants qui n'ont pas été vaccinés.
Ouais.
Mais vraiment, actuellement, il n'y a pas d'élément pour envisager un risque lié à cette vaccination contre l'hépatite B. On ne peut jamais éliminer, bien entendu, la susceptibilité individuelle, etc. Mmh. Mais à l'échelle de population, il n'y a vraiment pas d'intervention de ces vaccins dans l'évolution de la maladie.
Jimmy.
Évidemment, c'est au médecin de prescrire les examens, mais comment est-ce qu'on fait le diagnostic de sclérose en plaques ? Quel est l'examen de référence ?
Le diagnostic, il se fait d'abord sur l'examen clinique, ce qu'on appelle l'interrogatoire. On écoute l'histoire que raconte le patient, on l'examine, donc on voit des signes qui témoignent de lésions à tel ou tel endroit du système nerveux central. Donc déjà, généralement, on a un faisceau d'arguments cliniques qui nous disent, voilà, il y a une vraie suspicion de sclérose en plaques. Mais bien sûr, si on veut confirmer le diagnostic, on a recours à l'examen qui est quand même un examen très important dans le diagnostic, dans le suivi aussi d'ailleurs, mais dans le diagnostic de la sclérose en plaques, qui est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc on peut faire une IRM du cerveau, on peut faire aussi une IRM de la moelle, et cette IRM, elle va montrer les lésions disséminées dans le système nerveux central.
Ça, vous savez le voir. C'est aujourd'hui, c'est
quand
vous voyez une IRM de sclérose en plaques, vous dites là, il y a la sclérose.
Oui, on sait très bien le voir en sachant qu'il n'y a pas des lésions qui sont absolument, absolument typiques. Encore que certaines sont vraiment très, très, très évocatrices. Donc, ce qui permet le diagnostic, c'est l'association des symptômes cliniques évocateurs et puis de l'IRM qui montre des lésions très, très évocatrices.
Comment ça se passe quand le patient apprend le verdict ? Parce que j'imagine que ça doit être terrible d'apprendre « j'ai la sclérose en plaques à 30 ans
oui. ».
On sait qu'on ne peut pas le guérir.
Oui, je vais juste répondre à votre question, mais je rajouterai juste une petite chose. Donc, l'IRM, c'est l'examen clé et dans 80% des cas, ça suffit. Mais quand il reste un doute diagnostique, à ce moment-là, on a recours à la ponction lombaire. On étudie ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien qu'on prélève par ponction lombaire et qui montre des signes d'inflammation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Alors après l'annonce, c'est toujours difficile l'annonce d'une maladie chronique avec un élément d'imprévisibilité parce qu'on sait que voilà, il y a des formes sévères, il y a des formes bénignes, mais c'est vrai qu'au début de la maladie, on ne sait pas très bien comment elle va évoluer. Alors, finalement, ça, on devrait changer un petit peu le temps du verbe et on devrait dire on ne savait pas très bien comment allait évoluer la maladie parce que maintenant, quand même, on a de plus en plus d'arguments qui nous aident, dès le début de la maladie, à se dire, voilà, on est plutôt dans une forme bénigne de maladie et plutôt dans une forme moins bénigne. Donc, pour revenir à l'annonce diagnostique, il faut, mais c'est vrai pour toutes les maladies, c'est vrai en médecine en général, vous le savez, docteur Mohamed, voilà, pour annoncer un diagnostic, il faut du temps et donc il faut dire les choses et puis les redire et puis éventuellement revoir le patient un peu après. Et nous, on a développé à l'hôpital, mais ça existe dans les différents centres experts en France, des reprises d'annonces en fait, qui sont faites par une équipe médicale et paramédicale. Il faut prendre le temps d'informer et de répondre aux questions. Mais ce qui est aussi important, c'est que cette annonce du diagnostic, elle s'est transformée depuis que les traitements sont apparus. Mmh. On annonce un diagnostic, mais on initie un traitement.
Professeur Loubetsky, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans un instant. Nous allons passer au traitement de la sclérose en plaques, car il y en a plusieurs qui permettent à de nombreux patients d'avoir une bonne qualité de vie, d'espacer les poussées ou même de les raccourcir. Et même chez les malades les plus sévères, de nouvelles pistes de recherche avec peut-être des avancées thérapeutiques d'ici 2-3 ans. On vous détaille tout ça juste après, alors restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, professeur Catherine Loubetsky. Vous dirigez le département de neurologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris ainsi qu'une équipe de recherche à l'Institut du cerveau, l'ICM. Alors professeur, une fois le diagnostic fait, on vient d'en parler, quelle est la prise en charge qu'on propose, on va dire en toute première intention, aux patients ?
Chez les patients qui ont une maladie qui évolue avec des poussées, on va initier rapidement un traitement pour... Puisque ces poussées, elles sont liées à de l'inflammation, on va initier un traitement qui permet de lutter contre l'inflammation, d'empêcher la survenue d'autres épisodes d'inflammation et donc d'autres poussées. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais selon un peu la gravité, le nombre de lésions qu'on voit sur l'IRM, on choisira soit un traitement immunomodulateur, donc il va moduler nos cellules de l'immunité, en gros en diminuant les cellules un peu agressives et en favorisant les cellules anti-inflammatoires. Soit, si on a l'impression qu'il y a quand même une activité inflammatoire un peu forte chez ce patient, on proposera peut-être d'emblée, ou en tout cas dans un deuxième temps, un traitement qu'on appelle immunosuppresseur. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça diminue en fait l'activité, le nombre et l'activité des cellules de l'immunité.
Je reviens sur un point où vous nous aviez dit que donc trois quarts des patients quasiment sont des femmes,
oui.
Des femmes jeunes, la trentaine la plupart du temps, ou en moyenne en tout cas. Donc des femmes qui peuvent avoir un désir d'enfant, et on peut le comprendre. Tous ces traitements dont vous parlez, et puis la maladie en elle-même, ça n'empêche pas une grossesse future éventuelle ?
Non, c'est une question importante que vous posez. Donc non, la sclérose en plaques est compatible avec la grossesse, et ça c'est quelque chose qui est important, et c'est une question qui se pose rapidement en fait quand on suit ces jeunes patientes ou ces jeunes patients d'ailleurs, la question de la grossesse se pose. Donc il y a des médicaments qui sont presque compatibles avec la grossesse pendant toute sa durée, mais le plus souvent on arrête les traitements au début de la grossesse. Il y a certains traitements qu'on doit arrêter plusieurs mois avant, et il y a certains traitements qui sont complètement contre-indiqués et qu'on va éviter quand il y a un projet de grossesse. Donc, c'est vraiment important justement d'anticiper le projet de grossesse et de dire aux patients, voilà, il n'y a pas de contre-indication à une grossesse, la grossesse ne va pas aggraver la maladie. Ce n'était pas ce qui était dit il y a 25 ans, donc
bien
voilà,
sûr.
Vraiment, ça ne va pas aggraver la maladie. En revanche, il faut programmer cette grossesse, arrêter en temps utile les médicaments qu'il faut arrêter.
Jimmy.
Vous avez parlé de traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Comment est-ce qu'on les prend ? Est-ce que c'est par comprimé ? Est-ce que c'est par injection ? Est-ce qu'il faut être hospitalisé ? Est-ce qu'on peut avoir une qualité de vie normale avec ces traitements ?
Donc ça aussi, c'est une question importante. Il faut savoir que voilà, les médicaments qu'on a à notre disposition, ce qu'on appelle l'arsenal thérapeutique, s'est considérablement modifié au cours des 15 dernières années. On est passé de quasiment rien à une quinzaine de traitements actuellement qui ont montré leur efficacité pour réduire l'inflammation et pour réduire la fréquence des poussées. Et selon les médicaments, ça peut être soit des médicaments qui se donnent par voie injectable, donc des injections sous-cutanées ou intramusculaires que le patient se fait tout seul. Ça peut être aussi des médicaments qui se prennent par la bouche. Et puis, dans certains cas aussi, pour les traitements immunosuppresseurs, c'est des traitements qui se font sous forme de perfusion. Donc, les traitements qui se font sous forme de perfusion, ça nécessite une hospitalisation en hôpital de jour pendant quelques heures. Et puis, il y a aussi un traitement aussi qui, juste au moment de son initiation, même si c'est un traitement par la bouche, on a besoin de surveiller les premières heures de prise du traitement. Mais sans ça, après, le patient est chez lui et voilà.
Une vie normale.
Et normale, avec une qualité de vie
qui est correcte. Il travaille, il peut avoir des bébés, on a compris.
Voilà, il n'y a pas de contre-indication à travailler. Et en dehors des traitements immunosuppresseurs qui vraiment diminuent beaucoup l'immunité, voilà, il ne semble pas que les traitements de la sclérose en plaques favorisent le risque d'infection grave du Covid.
Ouais, par exemple. La forme progressive, donc, il nous fait un peu plus peur, là, quand même. Elle a l'air quand même plus grave. Ces patients-là, en termes de traitement, vous avez des choses où, je crois que vous m'avez dit en préparant que c'était un peu le défi aussi des prochaines années.
Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, des gros progrès, il y a eu dans ce domaine, dans le traitement des formes rémitantes de la maladie. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 15 ans. Donc, un grand succès thérapeutique. En revanche, ce qui reste difficile, c'est de traiter la phase progressive de la maladie, soit secondairement progressif, soit progressif d'emblée. Et donc, c'est vrai, c'est le challenge actuel, le challenge thérapeutique de la maladie. Il y a certains médicaments, des immunosuppresseurs, qui ont montré un petit effet chez certains patients, mais voilà, ce n'est pas suffisant. Et actuellement, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui sont en cours, justement, pour cibler cette phase progressive de la maladie.
Jimmy ?
Et à l'Institut du cerveau, l'ICM, vous avez d'autres pistes de recherche, d'autres espoirs ?
Oui, donc il y a plusieurs équipes qui travaillent sur la sclérose en plaques à l'Institut du cerveau. Et une des, dans notre équipe de recherche, que je co-dirige avec Bruno Stankoff, qui est un de mes collègues, et qui est neurologue aussi, à la Sorbonne Université aussi, eh bien, on essaye de prévenir justement l'atteinte dégénérative. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de favoriser la réparation de la myéline, parce que la réparation de la myéline, ça
la
permet
myéline,
de...
encore une fois, cette gaine qui est autour, gaine des axones, autour des axones, qui est un prolongement des neurones.
Voilà. Et donc, cette gaine de myéline, quand elle se reforme, elle préserve l'axone. C'est une gaine protectrice. Et donc, on développe un certain nombre de stratégies thérapeutiques, expérimentales, mais aussi cliniques maintenant chez l'homme, pour favoriser justement cette réparation des lésions.
Alors ça, c'est en bonne voie, pas en bonne voie. Quand est-ce qu'on aura des résultats? Et on l'espère, si ça fonctionne, d'un médicament, quelque chose pour les patients?
Eh bien, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une voie qui est actuellement très active, qui est développée donc chez nous, à l'ICM, voilà, mais aussi dans le monde par un certain nombre d'équipes. Et il y a actuellement probablement entre 12 et 15 essais thérapeutiques de phase précoce, hein, des essais, ce qu'on appelle des essais de phase 2, qui cible justement la remyélinisation.
Mais ce n'est pas dans 10 ans quand même, les
non,
résultats.
Non, ce n'est pas dans 10 ans. Il y a certaines études qui ont déjà montré des résultats prometteurs. C'est trop tôt pour dire on a le médicament
pour
qui
les
favorise
suite,
pour les
ouais.
patients. Mais on est vraiment dans une spirale qui est très positive.
Donc des résultats dans 18 mois, 2 ans.
Je pense qu'en tout cas, ouais. dans 18 mois, 2 ans, pour un certain nombre des essais qui sont en cours, on aura des réponses. Ça marche pas, mais on aura ces réponses.
Donc, et si ça marche, un traitement
si ça marche,
dans 2 ans, 3 ans.
À ce moment-là, on passe à la troisième phase, qui est la phase 3 de... Voilà, et puis... qui conduit à la mise à disposition du traitement.
Merci beaucoup, professeur Loubetsky, d'avoir accepté de répondre à nos questions, nous avoir éclairé sur la sclérose en plaques. Et j'en profite pour signaler un ouvrage qui permet d'en savoir plus, évidemment. Un ouvrage fait par l'ARCEP, qui est l'Association de recherche sur la sclérose en plaques. Ce bouquin, il vient de sortir, ça s'appelle « Le point sur la sclérose en plaques ». Pour l'avoir, c'est très simple, hein, on contacte l'association, il est gratuit et on peut l'avoir, on paye uniquement les frais de port, hein, c'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au strabisme, ce défaut de parallélisme entre les deux yeux qui les empêche de regarder dans la même direction. Alors, tous les strabismes n'ont pas la même intensité, mais la plupart se traitent bien. Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur le strabisme. Savez-vous quelles sont les causes de ce problème de parallélisme entre les deux yeux? Un bébé qui louche, est-ce forcément pour toujours? Et surtout, savez-vous comment on peut aujourd'hui corriger ce problème? Justement, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est au niveau des yeux, quand on a les yeux qui louchent tout seul. Enfin, tout le temps.
On a un œil qui dit merde à l'autre.
Déjà, physiquement, ça se voit. Un effet divergent ou un effet convergent au niveau des yeux. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas un regard qui est droit des deux côtés.
Si on a des problèmes de vue à cause de ça, je pense que oui, c'est bien de consulter. Si après, c'est juste un détail physique, tout dépend de comment on s'accepte soi face à ce handicap.
Ces personnes par l'alcool ou par la fatigue, peuvent avoir en effet, à un moment donné, un des yeux qui peut partir un petit peu à droite ou à gauche.
Alors, généralement, les personnes qui ont du strabisme, elles ont des lunettes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut se traiter en partie, qui peut soigner en partie quand on est jeune.
Des séances de rééducation. Après, je pense, j'ai pas l'impression que la chirurgie puisse faire grand-chose au strabisme.
Je crois qu'il y a des orthoptistes qui existent au niveau médical pour justement accompagner ce travail.
Ça peut être mignon quand on est petit. Après, quand c'est grand, ça peut être sexy, ça dépend.
Bon, bah, sexy, pourquoi pas. Alors Jimmy, on va quand même faire ce petit focus sur le strabisme. D'abord, il en existe plusieurs types, je crois. Expliquez-nous.
Oui, alors strabisme, ça vient du grec strabos, qui veut dire qui louche.
Vous avez révisé aujourd'hui.
Oui. Et donc, ouais. C'est un trouble oculomoteur qui fait que les deux yeux ne se regardent plus dans le même axe. Et vous avez plusieurs types de strabisme. Vous avez le strabisme divergent. C'est souvent un œil
qui confonds
est tourné.
Toujours. Alors, convergent, oui, donc divergent, ça part
divergent,
sur le côté.
Ça tourne vers l'extérieur. Ouais. Ça touche plutôt les enfants un peu plus grands, de 6 à 10 ans. Et le strabisme convergent, lorsque
donc,
vous avez l'impression que l'enfant.
Exact,
ça converge, donc
nez.
Ça louche. Ouais. Et c'est plutôt les plus petits enfants qui touchent en général 5 ans. Et puis parfois, vous avez un strabisme qui est intermittent, qui n'est pas forcément pathologique. C'est fréquent chez les nouveau-nés. Et puis chez l'adulte, parfois, lorsque vous êtes fatigué, celui-là.
Ah, c'est ça qui vous arrive en fait de temps en temps. C'est
exactement,
le strabisme c'est
quand,
de, voilà, de fatigue.
De trop travailler, c'est ça.
C'est ça, exactement. Vous l'avez dit hein, d'ailleurs, il y a un faux strabisme chez le nourrisson, je crois. C'est-à-dire jusqu'à 4 mois, un bébé, ça regarde un peu à droite à gauche. Hein, c'est ça, Jimmy. Il ne faut pas s'inquiéter.
Non, quand c'est intermittent, jusqu'à 4 mois, ça pose pas de problème. C'est après qu'il faut s'inquiéter.
Les yeux partent un peu dans tous les sens ou parfois louche, mais c'est pas inquiétant. Alors justement, quand le strabisme, par contre, Jimmy, il est bel et bien là. Est-ce qu'on a une idée de la cause de ce défaut ?
Alors, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des malformations congénitales, notamment au niveau des muscles qui sont responsables de l'alignement des yeux. Vous pouvez aussi avoir un problème neurologique, la commande centrale qui marche moins bien, qui empêche les yeux de s'aligner. Parfois, un accident peut être à l'origine de strabisme. Ou enfin, on en parlera peut-être un peu après, une amblyopie qui est liée à un traitement, à un trouble visuel qui n'est pas corrigé dans l'enfance, qui va entraîner des séquelles irréversibles et donner ce strabisme.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en cas de strabisme, on va y arriver, dis donc, aujourd'hui c'est compliqué l'addiction. Il y a plusieurs solutions pour corriger ce défaut. Le détail avec le professeur Dominique Monet, ophtalmologiste, chef de service à l'ophtalmopôle de l'hôpital Cochin à Paris.
Donc les techniques de traitement du strabisme peuvent aller de quelque chose de très simple, comme une simple paire de lunettes accompagnée de gymnastique des yeux, donc de rééducation, jusqu'aux techniques chirurgicales, souvent dans les cas un petit peu plus complexes, de désordres neurologiques qui nécessitent des interventions sur les muscles oculaires. La difficulté du traitement, elle vient encore une fois de la gestion du problème de vision binoculaire, d'obtenir une vision des deux yeux, et puis de la gestion du problème esthétique, qui est souvent une demande de la part des patients et des parents de ces patients.
Bon, Jimmy, une dernière petite question. À partir de quand il faut consulter vraiment pour ça? Si on voit que son enfant est louche, c'est une urgence, il faut voir un ophtalmo?
Alors, on l'a dit, après 4 mois, un strabisme doit être exploré. Un strabisme qui n'est pas corrigé fait que l'œil va devenir un peu feignant, le cerveau va oublier le message de vision, et donc cet œil va devenir feignant et en quelque sorte paralysé, responsable de l'amblyopie. Or, si on corrige un strabisme avant l'âge de 5 ou 6 ans, il n'y a aucune séquelle et l'enfant a une fonction visuelle totalement normale.
Strabisme. Ouais, vous le dites bien, vous. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, répondra à une femme qui s'interroge sur les douleurs qu'elle ressent parfois lors des rapports sexuels. Tout ça, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, et puis Catherine Blanc, la sexologue d'Europe 1, qui arrive tout de suite à nos côtés. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Sylvie, qui a 44 ans. Elle nous écrit la chose suivante. J'ai divorcé après 25 ans de mariage. J'avais très peu de rapports sexuels avec mon mari. Avec mon nouveau partenaire, nous faisons l'amour beaucoup plus régulièrement et des douleurs apparaissent parfois durant l'acte. Est-ce parce qu'il est plus jeune que mon ex-mari et plus vigoureux, ou alors suis-je trop stressée? D'emblée, Sylvie, elle parle du stress. Est-ce que ça peut effectivement créer des douleurs? C'est un nouveau partenaire, elle a toujours été avec le même homme. Est-ce que, elle le dit elle-même, elle doit être stressée. Est-ce que ça peut engendrer des douleurs?
Ah ben bien sûr, puisque normalement on fait l'amour parce qu'on est en désir, donc en ouverture et en lubrification. Quand on est stressé, ça n'est pas du tout dans ce sens que vont les choses. Donc elle a certainement une angoisse de performance, puisqu'elle précise que son partenaire est plus jeune.
Oui.
Donc ça n'a rien à voir évidemment avec la façon de faire l'amour ou la forme d'un pénis ou le côté vigoureux du pénis en question, mais bien de ce qu'elle se met de pression dans ce nouveau rapport avec ses nouveaux enjeux, puisque 25 ans de couple, d'habitude, et puis tout d'un
petite
coup...
Petite sexualité, d'après ce qu'elle dit.
Une petite sexualité, et là, de devoir retrouver des nouveaux codes avec quelqu'un qui est plus jeune, et peut-être avec une culture qu'elle pense différente, sexuelle.
C'est un peu inquiétant.
Et donc, du coup, elle se met dans une situation où elle se permet manifestement pas non plus de dire non. Donc, si elle fait l'amour plus qu'elle ne le désire et à un rythme plus soutenu, sans avoir le temps...
Mécaniquement, ça peut faire mal aussi, d'avoir plus de rapports qu'avant, quoi, tout simplement.
Bien évidemment, ouais. Bien sûr.
Mmh. Jimmy ?
Alors, je dois poser la question, mais c'est pas le docteur Mohamed qui pose la question, ni le citoyen, mais je suis la personne qui vous pose cette question. Mais on est d'accord que pendant 25 ans...
Il met les pinces là.
Certains se posent la question. On est d'accord que pendant 25 ans, son vagin ne s'est pas adapté à la taille, à la forme du sexe de son ex-mari, et que désormais, il faut redécouvrir...
Un vagin, c'est pas un moule, quoi. C'est
exactement.
Ça que je vais vous demander.
Ah, oui, c'est très bien exprimé. Un vagin, c'est pas un moule, Catherine.
Non, pas du tout. Surtout qu'un vagin, quand il n'est pas pénétré, eh bien... c'est une cavité virtuelle. Donc, quand il n'est pas pénétré, ce n'est pas une cavité où il y aurait la taille d'un pénis, qui est le pénis qui a fait son chemin. À chaque fois que nous arrêtons de faire l'amour, à chaque fois, les parois du vagin se touchent et s'adapteront à ce qui le pénétrera, un pénis ou un doigt ou un spéculum de gynéco, et sans que ça puisse faire mal du tout, puisqu'il y a une capacité d'élasticité dans le sens de l'allongement et dans le sens de la largeur. Donc rien de tout ça, ce n'est pas un moule à gaufre.
C'est pas à cause de ça qu'elle a mal, donc c'est pas le changement de pénis, entre guillemets, qui crée des douleurs. douleur.
Absolument.
Ou même le fait de ne plus avoir de rapport pendant un moment, le vagin ne revient pas plus serré, pareil, ça change. Absolument. Ça, c'est dans la tête des gens.
Hein. Exactement, ça ne se referme pas parce que le sexe féminin n'est pas une blessure. Ce n'est pas comme si on s'était ouvert et puis que ça cicatrise et après il faut réouvrir. Hein. Ce sont des fantasmes liés aussi à l'idée que l'on se dit qu'une première fois va tout déchirer et donc après ça se reconstruit et donc une nouvelle pénétration redéchirerait tout, rien de tout cela. Bien
Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour en finir avec ses douleurs? Parce que malgré tout, elle a l'air d'être quand même très heureuse d'avoir un nouveau compagnon, mais c'est embêtant si elle a mal. Alors il faut qu'elle aille investiguer de quel côté pour en finir avec ses douleurs.
Bah, moi je crois que surtout c'est aller à son rythme, parce que là j'ai le sentiment, comme ça dans les quelques mots qu'elle nous livre, que finalement elle se met une pression pour être dans ce rapport avec cet homme plus jeune, qu'elle a un véritable enjeu, c'est la peur peut-être de rester sur le carreau, donc il faut vraiment être à la hauteur de cette nouvelle relation, et peut-être ne suit-elle pas le rythme de ses désirs, n'exprime-t-elle pas ses désirs, du coup, tant qu'elle n'est pas en désir, elle n'est pas en excitation, elle n'est pas en lubrification, elle n'est pas en ouverture, et donc en confort de sexualité. Mmh. Et c'est pas parce qu'on l'a fait l'amour une fois et qu'on trouve ça super qu'on est obligé de le faire 2, 3, 4. On peut le faire de temps en temps, on peut le faire autant qu'on veut, bien sûr, mais autant qu'on veut.
Ouais. Jimmy, dernière question.
Vous avez raison, on a l'impression que c'est des rapports un peu à la hâte. Peut-être que c'est une histoire de préliminaire, de prendre le temps pour que le désir monte, donc peut-être qu'il va trop vite.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je crois vraiment que tout ça va trop vite, qu'elle ne s'impose pas, ne lui impose pas un rythme qui lui conviendrait mieux. Et elle croit que voilà, c'est un peu comme un petit chiot tout fou qui arrive et qui vous saute dessus et vous n'êtes pas prêt à l'accueillir et à le câliner. Et ben, elle se met un peu dans cette pression. Je pense que c'est de la maturité de la relation qui fera la qualité et le confort de la sexualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. C'est un plaisir de vous écouter chaque jour. Merci encore une fois. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous avec un thème qui va peut-être vous amuser, en tout cas vous intéresser. Nous tenterons de comprendre pourquoi penser du mal des autres est bon pour la santé. Et oui, vous allez voir, ça va être surprenant et très intéressant. Tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage, qu'on retrouve eux aussi avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Et aujourd'hui, autant certains jours, je pense que vous vous forcez à rester parce que vous êtes corporate, vous écoutez l'équipe sauvage tous les jours. Aujourd'hui, vous restez par pur plaisir puisqu'on reçoit Thomas Dutronc. Nouvel album.
Oui, je l'adore.
Vous voyez cet album que je tiens entre mes mains, parce que j'ai la chance, je le dis à nos auditeurs, de tenir le vinyle de nouvel album Frenchie de Thomas Dutronc entre les mains. Je vous le donnerai si vous êtes sage.
Je vais être sage et je vais vous écouter, mais alors minute par minute, seconde par seconde, je serai là.
À la fin de l'émission pour voir si vous avez bien écouté.
L'émission. Merci beaucoup Mathieu. Et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.